Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, 6 heures ?
Il aurait eu 100 ans cette année, le grand, le très grand Léo Ferré. D'ailleurs, à la rentrée, Radio France va organiser un événement à la taille de ce grand poète, grand musicien. Mais nous, c'est Pascal Boniface qui viendra nous en parler aux alentours de 6h15. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre fidélité. Nous sommes le jeudi 23 juin 2016. Bonjour Barbara Carletti et bonjour Denis Maurier.
Bonjour.
Vous êtes musicologue, vous êtes spécialiste de la musique baroque, mais surtout, vous avez eu l'extrême gentillesse de nous accompagner depuis lundi pour nous raconter une brève histoire de la musique savante occidentale. Tout de suite, le quatrième épisode.
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann écrit sur la musique et la musique instrumentale de Beethoven, 1813. La musique sacrée des anciens Italiens est à celle des Allemands modernes ce que la basilique Saint-Pierre de Rome est à la cathédrale de Strasbourg. Les proportions grandioses du premier de ces bâtiments élèvent l'âme tout en restant commensurable. Une inquiétude étrange point le cœur de celui qui regarde la cathédrale étirer bien haut ses volutes hardies, ses entrelacs bizarres de figures et d'ornements disparates et fantasques. Mais cette inquiétude elle-même éveille un merveilleux sentiment d'étrangeté et l'esprit s'abandonne sans résistance à son rêve, où il croit reconnaître le supraterrestre et l'infini. Or, telle est l'impression que produit le romantisme pur, celui qui vit et règne dans les œuvres si riches d'inventions de Mozart et de Haydn.
Quatrième épisode de cette brève histoire de la musique savante occidentale en compagnie de Denis Maurier, le siècle romantique et ses paradoxes. On va parler de la musique du 19e siècle, donc ce matin, Denis Maurier.
Eh oui! Et le premier paradoxe, c'est que je vous fais entendre en ce moment de la musique du XVIIIe siècle. Il s'agit d'un lied en anglais, une canzonetta de Joseph Haydn, The Spirit Song. Et vous avez entendu sur cette musique un texte de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, l'auteur bien connu des Contes d'Hoffmann.
Lu par Barbara Carlotti.
Donc Hoffmann donc, est bien connu pour ses contes, c'est un littérateur, mais on a souvent oublié qu'en fait il était musicien professionnel, maître de chapelle à Bamberg, et qu'il a beaucoup écrit sur la musique. Il est surtout l'un des tout premiers, sinon le premier, à avoir utilisé le terme de romantisme pour désigner une musique. Et nous sommes là en 1813, donc très tôt dans le 19e siècle. Et pour lui, le romantisme, il a deux, on va dire, personnages principaux, qui sont en effet Haydn et Mozart. Plus tard, il parlera d'ailleurs de Beethoven, qu'il montra comme le modèle du romantisme dans le cadre de la musique instrumentale.
Voilà, ça c'est pour les modèles. Mais s'il fallait trouver une définition à la musique romantique, Denis Maurier ?
Eh bien, justement, c'est là tout le problème. C'est que, une fois de plus, dès lors que l'on se tourne vers un auteur du 19e siècle, la définition qu'il va nous en donner, c'est en effet une définition très différente que celle que nous voudrons voir. Et il est clair qu'aujourd'hui, l'on va plutôt considérer comme romantique les compositeurs de la génération de 1810, avec des gens comme, par exemple, Wagner, Liszt, Schumann, par exemple, ou Chopin. Alors que, bien entendu, personne n'imaginerait que les compositeurs qui étaient nés 30 ans auparavant auraient pu être considérés comme des auteurs romantiques. Le problème est que l'on voit à travers ce romantisme une sorte d'expression fondamentale de l'être, une sorte d'expression du sentiment qui se substitue aux précédentes expressions des passions. En effet, l'expression des passions, ce sont des termes que l'on voit partout dans les traités des XVIIe et XVIIIe siècles.
Vous employez le terme « voir » pour parler de la musique qu'on entend.
Oui, parce qu'en effet, je dirais ces termes-là sont des termes qui sont d'ailleurs très forts et qui renvoient aussi à des catégories visuelles. De la même manière, quand on parle d'exprimer des passions, tout au XVIIIe siècle, on a aussi l'idée que la musique doit peindre des choses. Elle doit illustrer des idées et des notions. Ce que l'on voit très bien d'ailleurs encore dans ce Spirit Song, où en effet on évoque le chant donc d'un esprit qui surgit de la tombe et qui va y retourner. Et en effet, la musique ne cesse d'avoir ces mouvements qui montent et qui descendent et qui essayent de figurer, ce qu'on appelle des figuralismes, en effet les idées qui sont contenues dans le texte. Le romantisme, au sens où nous l'entendons désormais, c'est-à-dire les musiciens plutôt du 19e siècle, vont plutôt s'ériger contre cette vision qui est trop illustrative du texte. Et ils vont plutôt chercher à exprimer, on va dire, le vague des passions, le vague des sentiments, plutôt que l'objectivité visuelle que l'on pourrait coller aux passions telles qu'au sens où on l'entendait au siècle précédent.
Dis-je, parle d'abord à un sens qu'elle charme et dont l'excitation, se propageant à tout l'organisme, produit une volupté, tantôt douce et calme, tantôt fougueuse et violente, qu'on ne croit pas possible avant de l'avoir éprouvée. Mais quand, réunissant à la fois toutes ses forces sur l'oreille qu'elle charme ou offense habilement, sur le système nerveux qu'elle surexcite, sur la circulation du sang qu'elle accélère, sur le cerveau qu'elle embrase, sur le cœur qu'elle gonfle et fait battre à coups redoublés, sur la pensée qu'elle agrandit démesurément et lance dans les régions de l'infini, elle agit dans la sphère qui lui est propre. Hector Berlioz, Journal des débats, 7 mars 1849.
Le texte que vous avez entendu est d'Hector Berlioz, qui naturellement était un grand littérateur, qui était journaliste musical, qui s'est beaucoup exprimé à travers ses écrits sur sa pensée musicale. Donc Hector Berlioz incarne aussi, je dirais, une des grandes révolutions du siècle romantique. La symphonie que vous avez entendue date de 1830, elle est contemporaine des premières grandes œuvres de Hugo par exemple. Et cette symphonie est écrite pour un énorme orchestre très coloré qui va être, le point de départ d'une nouvelle pensée de l'orchestration qui va pouvoir user d'effets colossaux qui vont alterner avec des effets au contraire extrêmement intimiste. C'est en effet tout le paradoxe de ce style romantique qui va user à la fois de forme démesurée dans le volume sonore, mais aussi démesurée, on va dire, dans la longueur. Toutes les pièces musicales vont devenir de plus en plus longues. Une symphonie, on va dire, classique, dure en général entre 20 minutes et une demi-heure. Et à partir de l'époque romantique, elle va peu à peu s'élargir jusqu'à l'heure, voire même au-delà, lorsque l'on passera le cadre de la fin du 19e siècle. Donc, tout devient démesuré, et paradoxalement, au même moment, le 19e siècle voit se développer une esthétique raffiné, intimiste, l'art du salon, que illustre parfaitement, entre autres, Frédéric Chopin.
Ce prélude de Frédéric Chopin, si court, Denis Morier, me renvoie effectivement à l'image que je me faisais du romantisme. Mais vous nous dites, depuis le début de cet épisode, qu'il y avait les deux et que c'était ça, justement, le paradoxe du romantisme.
Je dirais même, c'est l'un des multiples paradoxes de ce siècle romantique. Parce qu'en effet, s'il y a ce paradoxe qui va opposer les grandes formes et les petites formes, elles ont néanmoins en commun de vouloir à chaque fois, j'irais faire le tour de l'expression la plus précise et la plus exacte possible d'un sentiment, même si ce sentiment demeure quelque part assez vague. De la même manière, un autre paradoxe qui se développe durant ce 19e siècle, c'est le fait que les langages musicaux évoluent, les formes évoluent, et pourtant, les genres demeurent fondamentalement ceux des siècles précédents. En effet, l'on compose des symphonies, depuis le début du XVIIe siècle, des concertos depuis cette époque-là. L'on compose des préludes, ce que vous avez entendu de Chopin, c'est une forme également qui remonte à la Renaissance. Bref, nous sommes ancrés dans des formes, on va dire, qui renvoient à deux siècles auparavant, et pourtant, tout cela se renouvelle. Un des auteurs, d'ailleurs, illustre parfaitement ce paradoxe d'un classicisme qui perdure tout en se changeant. C'est Johannes Brahms, qui compose 4 symphonies tardivement dans sa carrière, et qui, j'allais dire, tout en se référant au modèle de Beethoven pour l'orchestration, l'orchestre qu'il utilise est à peu près celui de Beethoven, ce n'est pas celui de Berlioz, et pourtant il sonne d'une toute autre manière, parce qu'en effet, il veut chercher une expression totalement neuve, et pour cela, son langage devient complètement neuf.
La musique classique va influencer aussi des poètes, des chanteurs. Elle va influencer quelqu'un comme Léo Ferré, Denis Morier, avant de vous dire au revoir et de vous retrouver demain pour le 5e et dernier épisode de notre brève histoire de la musique occidentale. Et demain, on parlera du 20e siècle. Un mot peut-être sur Léo Ferré ?
Léo Ferré, un immense poète, aussi un grand musicien qui a su, j'allais dire, vous avez parlé du lien avec le romantisme, qui a su réellement s'emparer, on va dire, des mêmes procédés d'expression.
Exactement, parce qu'il était aussi bien à l'aise avec des grands orchestres qu'avec un piano, et seulement avec un piano.
Tout à fait, exactement.
À demain, Denis Morier.
À demain.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture.
passé cette chanson qui traînait dans toutes les guitares, avec ses rimes et ses raisons qui nous faisaient veiller si tard. Un air accompagné de paroles émues, un air qui semblait toujours monter de la rue. Des mots, toujours des mots de rien qui font du bien lorsque revient cette chanson comme une sève, avec ses chanteurs de rue et ses histoires.
Mon invité ce matin est Pascal Boniface, bonjour.
Bonjour.
Dans votre dernier ouvrage paru aux éditions La Découverte, vous rendez hommage à Léo Ferré, qui aurait eu 100 ans cette année, le 24 août exactement. Léo le poète, Ferré le musicien, le vieux lion qui a composé près de 500 chansons, sorti plus de 40 albums. Ferré en version piano-voix, Ferré aussi avec les grands orchestres, Ferré le révolté, amoureux, et Léo l'anard slammer. Et enfin, et ce n'est pas rien de le rappeler, il y a le poète Léo Ferré et le musicien Léo Ferré qui rend hommage à des grands poètes du passé, Villon, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Mais Pascal Boniface, je rappelle que vous êtes fondateur et directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques à Paris, et en tant que géopolitologue, on a pris l'habitude de vous entendre parler du conflit israélo-palestinien, des armes nucléaires, du foot aussi. Mais Léo Ferré, pourquoi? C'est lui qui...
Bon, on n'est pas que d'un bloc et chacun a son jardin secret. Et moi, mon jardin, qui n'est d'ailleurs pas très secret, c'est Léo Ferré. J'ai eu un choc émotionnel dont je ne suis pas remis à 15 ans quand j'ai écouté pour la première fois Léo Ferré. Et depuis 45 ans, j'écoute tous les jours Léo Ferré. Voilà, il m'accompagne et effectivement, je me suis dit que... je me suis fait un défi personnel que de faire ce livre pour lui rendre hommage, pour le faire connaître ou tenter de le faire connaître aux nouvelles générations qui très souvent ne connaissent de lui que... avec le temps ou cet extra,
ouais, est-ce qu'on écoute et de montrer un peu
que,
ouais.
Je dirais que Léo Ferré, c'est à la fois un bloc, comme la Révolution française, et comme Picasso, c'est plusieurs époques. C'est effectivement l'époque musical, Joli Môme, Paname, Merde à Vauban, l'époque auquel vous avez fait référence, là où je l'ai connu, l'époque révolutionnaire, anarchiste, ni Dieu ni Maître, les anarchistes, la rue, où ces tours de chant sont des meetings révolutionnaires, et puis l'époque un peu plus apaisée, la musique classique, la musique symphonique, et en fond de tout ça, en fond de toile, les poètes maudits quand même, pas les poètes trop classiques, les poètes maudits qu'il a fait connaître à des générations de gens qui, sans lui, n'auraient pas connu la poésie, et moi, personnellement, j'ai révisé le bac de français grâce à Léo Ferré.
Alors, vous dites, Pascal Boniface, il m'a accompagné, mais est-ce qu'il vous a marqué politiquement, Léo Ferré?
Oui, je pense qu'il y a une sincérité dans la révolte. Il n'a jamais fait de compromission. Il est resté aussi bien par rapport à son milieu professionnel. Alors, bien sûr, il est souvent excessif, évidemment, mais il n'a jamais fait quelque chose par intérêt au détriment de ses convictions. C'est quand même plutôt un beau modèle par rapport à ce que l'on peut voir aujourd'hui dans la vie courante. Et effectivement, il en a pâti. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que il n'y a pas beaucoup... Regardez, France Télévisions, c'est le centenaire de Léo Ferré. France Télévisions, France 2, France 3, France 4, France 5 ne va rendre aucun hommage à Léo Ferré. Parce que, comme il le disait, le poète d'aujourd'hui, être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris, il n'était ni l'un ni l'autre. Et donc, il est resté effectivement l'anarchiste individuel non violent. Mais individuel, il n'y a pas de lobby proféré. Il y a des gens qui l'admirent, mais qui sont répartis et qui le célèbrent de façon individuelle. Mais il aura quand même marqué, je pense, que c'est le plus grand poète francophone du XXe siècle.
Vous avez dit poète avant musicien, Pascal Boniface?
Oui, peut-être parce que je suis peut-être plus sensible personnellement à la poésie et au texte qu'à la musique. Je n'ai pas l'oreille musicale, mais il se voyait lui-même avant tout comme un musicien. Et effectivement, il a aussi fait connaître, lorsque devant une fête des jeunes communistes, il joue Ravel et Beethoven devant 15 000 jeunes qui peut-être jamais n'ont entendu cette musique classique, eh bien il va faire porter. Et pendant 4 semaines, il a rempli le palais des congrès, 3700 places, de la musique classique et de la chanson, pour des gens qui venaient le voir pour ses textes, soit poétique, soit érotique, soit révolutionnaire, mais qui en plus ont pour beaucoup découvert la musique classique.
Alors parlons des textes érotiques de Léo Ferré.
En lisant votre livre, Pascal Boniface, on réécoute d'une autre manière un tube pourtant matraqué par la radio, Joli Môme.
Bah, franchement, en 61, ta prairie, ça sent bon, fais son don aux amis. Franchement, c'est se jouer de la censure, être en sous-entendu qui était vraiment au-delà des convenances, effectivement. Et il y a un érotisme formidable dans cette chanson qui n'apparaît peut-être pas à la première écoute, mais enfin, le quand même, qui est très clair.
T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme.
Waouh, ça voulait dire donc ça?
Bah oui, et on est en 61, à une époque où la majorité sexuelle est à 21 ans, où l'adultère est condamné pénalement, où les relations sexuelles, il n'y a pas de contraception, la sexualité est taboue. Il est en avance de mai 68. Léo Ferré annonce, bien sûr, dans son album de 67, mais déjà un peu dans Joli Môme, la libération sexuelle qui va venir éclater en 68.
Oui, mais en écoutant bien la chanson, on voit bien que la musique, elle est plutôt douce, c'est de la variété. Est-ce qu'il n'est pas un peu filou, là, faire passer...
Oui, il fait passer par la bande, parce qu'il est censuré, je veux dire, dans la télé gaulliste de l'époque, c'est l'ORTF, il n'y a qu'une chaîne de télévision, il n'y a pas de l'émergence des radios, et donc il est très censuré. Lorsqu'il dénonce la torture en Algérie, évidemment, ça ne passe pas sur les ondes, donc il est tout à fait marginalisé par les ondes publiques, et il passe par la bande.
Il ruse,
mais effectivement, en 68, quand il chante très clairement, enfin 69, « Faites l'amour », là, c'est beaucoup plus net.
« Et qu'une chose de la vie, qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes, au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver.
Et faudra réécrire l'histoire littéraire un peu différemment à cause de Léo Ferré. Ça, c'est Aragon qui disait à propos de Léo Ferré, Pascal Boniface.
Rencontre improbable entre l'ancien stalinien, qui ne l'est plus, bien sûr, quand ils se rencontrent, en tout cas le communiste et l'anarchiste, et qui vont déboucher sur une collaboration exceptionnelle. Bien sûr, la fiche rouge. Et là, il y a non seulement la musique, mais je crois avant tout la voix de Léo Ferré. Parce que l'affiche rouge chant la voix de Léo Ferré, ce n'est pas la même chose. Et puis, les autres, est-ce ainsi que les hommes vivent, l'étrangère, chantée également, bien sûr, par Montand, d'autres par Ferrat. Mais Ferré va effectivement révolutionner l'œuvre d'Aragon, la faire connaître à un public nouveau. Et cette rencontre va déboucher sur une collaboration exceptionnelle. Et là, c'est un petit peu le bout du chemin pour Léo Ferré, parce qu'auparavant, il a fait déjà Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Ruteboeuf, Villon, les poètes maudits. Aragon n'est pas un poète maudit, mais effectivement, Aragon, qui était un petit peu sceptique au départ pour collaborer avec un chanteur de music hall, a découvert finalement un poète et un musicien exceptionnel.
Alors, Pascal Boniface, vous disiez que France Télévisions ne va pas rendre hommage à Léo Ferré, qu'on commence un peu à l'oublier, et pourtant c'est en contradiction avec le titre de votre ouvrage, Léo Ferré, toujours vivant.
Heureusement que Radio France est là, et je ne dis pas ça par courtisanerie, mais Radio France va faire une journée spéciale Léo Ferré le 9 septembre, à la rentrée, avec un concert, etc. Et là, on voit quand même qu'il y a, vraiment, je rends hommage à un service public, là, dès que la famille et moi-même avons contacté Radio France, pour le centenaire, en disant « est-ce que vous voulez faire quelque chose pour le centenaire ?» La réponse a été immédiatement « oui ». Oui, par rapport à l'immensité de l'œuvre, oui, par rapport à l'impact qu'a Léo Ferré dans le paysage de la culture contemporaine.
Alors, aujourd'hui, s'il fallait parler de l'héritage de Léo Ferré, Pascal Boniface...
Le slam et le rap, bizarrement.
Ouais, alors oui, justement, on comprend, mais ça reste deux genres que Léo Ferré effectivement pratiquait. Hein,
qu'il a initié, parce que le premier, la rupture, de dire on casse le cadre des 2 minutes 35 pour une chanson, et on fait des textes plus longs, et on fait des textes où on parle sur de la musique, ça quand même c'est révolutionnaire. Et puis, je pense quand même que les chansons à la fois conditionnelles de variété, les chansons La rue par exemple, comme une fille, la rue se déshabille, les pavés s'entassent et les flics qui passent les prennent sur la gueule, ne pourraient plus passer à la radio aujourd'hui. Et effectivement, il y a un héritage révolutionnaire, les anarchistes, et surtout un héritage poétique.
Mais dans la chanson française, justement.
Oui, alors c'est vrai qu'il n'est pas très international. Il reste une tentative, il y a des bandes secrètes avec John McLaughlin, il y a une tentative avec Jimi Hendrix qui n'a pas abouti, il devait faire quelque chose avec Pink Floyd qui n'a pas abouti, il était curieux de tout finalement.
Ça c'était dans son époque, une épique époque pour vous reprendre Pascal Boniface. Non mais je parle des chanteurs d'aujourd'hui.
Ah, vous avez beaucoup de chanteurs, Bernard Lavilliers, Dominica, il y a vraiment, bien sûr, Rigelin, il y a beaucoup de chanteurs qui lui rend hommage, mais voilà, c'est le problème de Léo Ferré, c'est que la secte n'est pas très organisée. À chaque fois que je parle de Léo Ferré quelque part, je tombe sur quelqu'un qui l'adore, qui connaît ses textes par cœur, qui est en émotion, mais on fait pas groupe. On est un peu isolé parce que, ben voilà, c'est finalement le côté libertaire. Donc il n'y a pas un groupe de pression qui va se battre pour que sa mémoire soit célébrée de façon commune. Mais le nombre de personnes dont la vie culturelle, l'influence intellectuelle a été impactée par Léo Ferré et qui en parle avec des tonnerres d'émotions dans la voix, ça c'est énorme.
Et puis je suppose, Pascal Boniface, puisque vous terminez votre livre consacré à Léo Ferré, édité par La Découverte, en y faisant allusion, ce poster Brel, Brassens, Ferré, vous l'avez eu vous aussi, jeune ?
Oui, bien sûr, même si, bon, disons que là, je vais vous dire très franchement ma pensée, quitte à choquer certains auditeurs, ils ne sont pas du même niveau, il y a effectivement deux géants et un génie. Brel et Brassens, c'est 10 albums, Léo Ferré, c'est 40 ou 50, alors on ne sait pas, question numérique. Mais je dirais que si Brel et Ferré et Brassens peuvent se comparer dans l'époque musicale, la qualité du texte, la qualité de l'interprétation. Brel était peut-être plus une bête de scène que Ferré, effectivement. Mais ça reste une époque marquée. Mais Ferré a fait autre chose après. Brel et Brassens n'ont pas mis Baudelaire, Rimbaud et Verlaine en musique. Ils n'ont pas mis des textes sur la musique de Beethoven et de Ravel. Et ils n'ont pas fait cette période. Jamais, je veux dire, quand Le Figaro écrit en 68 que la clique de Nanterre est devenue la claque de Bobino, en 69 pour le concert de 69, concert mythique où les drapeaux noirs sont partout, jamais Brel et Brassens, cet homme aux cheveux blancs qu'il a enfin laissé pousser, qui est devenu un homme relativement âgé et qui est admiré, aimé, et qui parle à des gens qui avaient presque l'âge d'être ce petit enfant, finalement, peut-être qu'on le retrouve avec Bernie Sanders ou avec Stéphane Hessel récemment, mais c'est une époque extraordinaire et jamais Brel et Brassens n'ont fait cela.
Merci beaucoup Pascal Boniface d'être passé ce matin. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission en passant par franceculture.fr, émission préparée avec Pascaline Bonnet et Anaïs Isbert, réalisée par Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique Jean-Guy Larminge. Passez une bonne journée, à demain.